Je vais maintenant passer la parole à Michel de Bonneuil, tout en vous précisant que les questions que vous pourrez poser après l'exposé de Michel, vous pourrez les poser sur le modèle allemand, la comparaison France-Allemagne, mais aussi sur les autres pays. Michel comme Paul sont tout à fait habilités à vous répondre sur ce qui se passe aussi dans les autres pays. Michel, à toi la parole.
Oui, bonsoir. La difficulté de porter un diagnostic sur l'Allemagne est rendue plus grande par le fait qu'il y a eu des épisodes, un épisode au milieu qui a été celui de l'unification et qui évidemment a créé des perturbations dans l'analyse. Alors en tout cas, j'ai le privilège d'avoir vécu l'avant-unification et je me souviens qu'à l'époque déjà, l'Allemagne était un modèle. Et je me souviens aussi qu'à cette époque, j'étais spécialiste du commerce extérieur à l'INSEE, donc je regardais tout à fait cela, et je m'étais aperçue que finalement, ce qu'on vient de dire là, en fait, la force sûre, certaine de l'Allemagne, c'est qu'elle sait se contenter de ce qu'elle a. C'est-à-dire, elle ne consomme pas plus qu'elle ne peut. Voilà, ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et alors, on l'a rappelé, c'est certainement lié à son histoire, etc. Bon. Alors, déjà, juste avant l'unification, à l'époque, donc, je m'occupais de la note de conjoncture et Jean-Claude Trichet était au cabinet du ministre et après, il était directeur du Trésor où j'étais son conseiller économique. Et je lui avais dit à l'époque, alors que vraiment personne ne le croyait, je lui avais dit dans 6 mois, après l'unification, l'Allemagne aurait des déficits. Je vous garantis qu'à l'époque, personne ne le croyait. Bon, simplement parce que, si vous voulez, on voyait bien que ce qui faisait... encore une fois, la grande force de l'Allemagne, c'était sa capacité à tenir sa demande intérieure. Et qu'avec l'unification, évidemment, elle n'allait pas pouvoir. Le but n'était pas là et que donc on aurait forcément ces déficits. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait dans les tiroirs des réserves de productivité. Bon, quand on regarde la productivité, même si elle avait été, on l'a montré, mais epsilonesquement plus élevée que celle de la France dans les années 60, déjà dans les années 70, au moment de l'unification, ce n'était plus le cas. Donc, je rappelle ça simplement pour dire que on sort maintenant de l'unification et donc on va pouvoir effectivement retrouver, après une période où l'Allemagne a eu des déficits publics et extérieurs, parce qu'une demande extérieure, une demande trop forte, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Va-t-on retrouver un modèle ou va-t-on retrouver un pays qui finalement ne ressent? C'est un petit peu la question autour de laquelle je voudrais tourner rapidement. Alors, on avait décidé de prendre un peu les mêmes graphiques, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas 36 façons de décrire une économie. Bon, moi, donc, j'ai fait les graphiques sur plus courte période, et puis j'en ai fait certains, d'autres, un peu différents, pour dire des choses un petit peu différentes. Donc, vous voyez là, sur, en tout cas, ce qu'on retrouve, parce que je pense que c'est quand même actuellement ce qu'on retient de l'Allemagne, on voit qu'effectivement, l'Allemagne a des exportations qui progressent beaucoup plus vite que celles de la France et que celles de la demande mondiale, et qu'effectivement, ceci permet de gagner des parts de marché. Donc, vous voyez que sur la période récente, c'est évident par rapport à tous les pays européens. Donc, c'est parfait. Sur la compétitivité prix, c'est sans appel. La compétitivité prix de l'Allemagne est meilleure que celle de la France et encore beaucoup bien meilleure que celle de certains autres pays européens. C'est intéressant de regarder la compétitivité coût, qui est encore bien meilleur, c'est-à-dire que l'écart entre les courbes France-Allemagne et autres pays sont considérables sur la compétitivité coût, c'est indéniable. Donc, quand on regarde les écarts de profit, ils sont aussi tout à fait spectaculaires, et quand on regarde ceux des taux d'autofinancement, aussi. Donc, incontestablement...
Taux d'autofinancement,
qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est la part de l'investissement qui est financée par l'entreprise. Alors, maintenant, il s'agit de voir comment cette amélioration de la compétitivité a été obtenue. Il a fallu faire, donc, la compétitivité, c'est les prix, le rapport entre le prix d'exportation de la France et le prix de l'Allemagne et le prix d'exportation des concurrents de l'Allemagne dans un cas et de la France dans l'autre cas. Alors, on voit ici très clairement que sur la période récente, là, toutes les courbes que je vais présenter maintenant sont celles de la zone euro hors Allemagne, mais la France est vraiment tout près. Hein, on a des comportements, disons, les pays hors Allemagne sont très voisins de la France. Bon, donc on voit qu'effectivement, il n'y a pas photo, les évolutions de salaire n'ont rien à voir, et ça a été dit, on n'a pas les mêmes syndicats, on n'a pas les mêmes, c'est différent. Bon, l'emploi, regardons l'emploi manufacturier, vous voyez que la dégradation a été très parallèle, depuis les années 96, mais que sur la fin de période, avec précisément le redressement des exportations, on a réussi effectivement à créer un écart au niveau des taux d'emploi dans l'industrie manufacturière. Maintenant, si on regarde, et je pense que c'est intéressant, l'Allemagne est le pays où la fascination pour l'industrie a toujours été très forte et reste très forte. Hein. Ce qui fait que on a vu depuis longtemps un écart énorme entre les créations d'emplois dans les services en Allemagne et dans la zone euro. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur la fin de période, l'Allemagne s'est aperçue que malgré tout, même si en faisant beaucoup d'exportations, elle arrivait, et on le verra tout à l'heure, à doper sa production industrielle, malgré tout, cette production n'est pas très crise d'emploi, et que bon, le plein emploi par l'industrie aujourd'hui, c'est quand même difficile à prôner. Hein. Donc, bon, c'est aperçu que là, il y avait des gisements d'emploi qu'ils n'avaient pas exploités, mais que ces gisements d'emploi, malheureusement, vont de pair, soit avec des dépenses publiques importantes parce qu'il faut les aider, soit comme sur les services à la personne, ce genre-là, soit avec une croissance des inégalités comme aux États-Unis, voire avec la distribution de crédits du logement à prix, avec des subterfuges financiers dont on connaît les conséquences, parce que les emplois qui sont là sont des petits boulots. C'est-à-dire que quand on fait l'analyse et ça renvoie à d'autres types de modèles qu'on ne regarde pas ici, mais quand on regarde les emplois qui ont été créés dans les pays qui ont créé plus d'emplois que la France, eh bien ce sont des emplois, et ça se sait depuis longtemps, hein, qui sont des emplois pratiquement tous dans les services à la personne dans la grande distribution, hein, qui sont donc de petits boulots, hein, qui sont des emplois quasiment tous à temps partiel et dont plus de la moitié sont des emplois de moins de 15 heures par semaine, chez les seniors et chez les jeunes, d'ailleurs, donc tout ça est très cohérent, hein, ce qu'on appelle les petits boulots. Alors, ce qu'a fait l'Allemagne, et je veux dire, moi je l'avais dit à Jean-Louis Borloo quand j'étais à son cabinet, si vous voulez faire un taux d'emploi élevé, c'est pas compliqué, vous libéralisez totalement le marché du travail. Voilà, parce que ce qu'il y a comme emploi, c'est du petit boulot. Bon, donc c'est pas compliqué, si on veut de l'emploi, comme la définition du BIT, c'est travailler plus d'une heure par semaine, bon, et c'est la définition internationale, donc n'y revenons pas, c'est comme ça. Bon, donc si on veut avoir un taux d'emploi élevé, il faut faire du petit boulot, c'est tout. Hein. Seulement, il faut savoir que soit on fait derrière ce qu'on fait un peu en France quand même, les déficits publics, parce qu'on solvabilise au maximum pour que les gens puissent vivre, hein, parce qu'avec moins de 15 heures par semaine, à moins du SMIC, on ne vit pas. Soit on distribue des cartes de crédit et on loge les gens comme on peut, parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Hein. Bon. Donc, en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne a enfin compris. D'ailleurs, je crois que la France est le dernier à ne pas l'avoir fait. Ça se remonte d'ailleurs le graphique. Hein, bon. Le problème, c'est de savoir si vraiment le reste est un modèle. Hein, c'est tout. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne l'a pas fait. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, les États-Unis, qui étaient un modèle, on a dit tout à l'heure, et si on se pose, hein, moi, je pose des questions, là, je ne résous pas les problèmes. En tout cas, c'est aujourd'hui. Alors, la masse salariale, évidemment, quand on fait le produit des salaires et de l'emploi, bah, il n'y a pas photo non plus, hein, l'écart est absolument énorme. Et alors, évidemment, la demande des ménages, alors, c'est amusant, parce qu'il y a dû avoir une évolution, je n'ai pas regardé de près, mais du taux d'épargne, au début, les ménages ont dû compenser un petit peu, puis si vous voulez, au bout d'un moment, c'est tout, on s'aligne. Donc, vous voyez, ça fait quand même plus de 10 ans que l'Allemagne... qu'il n'y a plus de demande d'augmentation de la demande des ménages en Allemagne, plus du tout, alors que chez nous, on est passé de 120 à 140. Hein. Donc, bon, ce n'est quand même pas du tout les mêmes évolutions de demande intérieure. Alors, comme je disais, la production manufacturière n'a pas photo, c'est-à-dire que quand vous arrivez à prendre même un petit pourcentage de la demande mondiale de produits manufacturés, parce que vous avez abaissé les prix dans des proportions très importantes, parce que vous avez pressuré les salaires, ben voilà, ça marche. Seulement, évidemment, quand vous regardez le PIB allemand, ben, comme il n'y a pas de demande intérieure, vous allez vous faire beaucoup d'exportations, voilà ce que ça fait en termes d'écart de PIB. Voilà. Ça, c'était pour la France, et ça, c'est pour l'euro. Voilà. Alors, je voudrais commenter ça. Et je voudrais surtout focaliser sur un point, parce que c'est un sujet où je crois il faut qu'on arrive à se faire les idées claires sur ce que c'est que la productivité. Parce que chacun mélange allègrement compétitivité et productivité, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un un pays qui peut être considéré comme un modèle? C'est un pays qui fait des gains de productivité plus importants que les autres. Pourquoi? Parce que faire des gains de productivité plus importants, ça veut dire que chacune des personnes qui travaillent est capable de créer plus de satisfaction des besoins des consommateurs que dans l'autre pays. Donc si chaque personne qui travaille est capable de faire ça, on voit bien qu'on aura à se partager une meilleure satisfaction des besoins, et que donc, voilà, indiscutablement, l'économie, c'est ça. Le but de l'économie, c'est ça. Donc le pays qui sait faire ça mieux que les autres, il est meilleur. Bon. Alors évidemment, si vous savez faire ça, en général, ce qui se passe, c'est que à la fois votre consommation intérieure va plus vite, hein, parce que vous avez créé plus de satisfaction, donc vous en prenez plus, et puis, à l'extérieur, les pays étrangers prennent une partie de ça parce que c'est attractif, ça satisfait mieux les besoins, donc tout le monde en veut, etc. Donc vous avez à la fois une demande intérieure qui est plus dynamique et en même temps des exportations qui se portent bien. Mais les deux à la fois. Parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous prenez une part du marché en termes de production, de PIB, qui est plus importante. Voilà, parce que c'est ça la part de marché. La part de marché à l'exportation, c'est une des parties de la part de production globale. Évidemment, si vous prenez une part de votre production intérieure, si votre production intérieure est nulle, bon, et ben vous pouvez en consacrer à l'étranger, mais ça ne vous renseigne pas sur votre capacité à prendre une plus large part, que votre production prenne une plus large part de la production mondiale. Voilà. Alors, dans ce cas, quand on est dans un pays qui a une meilleure productivité, il faut bien voir que le prix, c'est en fait, en gros, le coût moyen. Ça s'indexe sur un coût moyen. Et ce coût moyen, en gros, il évolue comme le coût salarial par unité de production. D'accord ? Coût salarial moyen. Ce coût salarial moyen, eh bien, c'est le produit du salaire par le gain de productivité, puisque c'est le salaire multiplié par l'emploi divisé par la production. D'accord ? L'emploi divisé par la production, c'est l'inverse de la production divisée par l'emploi, c'est-à-dire la productivité. Bon. Donc si vous voulez, en fait, le prix, ça évolue comme les salaires et la productivité. Donc vous avez plusieurs façons de faire évoluer votre prix moins vite qu'ailleurs. Soit vous faites évoluer même vos salaires plus vite qu'ailleurs, mais vous avez des gains de productivité qui compensent ce surcroît de salaire. Soit vous n'avez pas de gains de productivité plus importants, et pour avoir des prix moins forts, il faut baisser vos salaires. Voilà. Donc un pays qui est fort, qui mérite d'être imité, c'est un pays qui est capable d'avoir de meilleurs gains de productivité, d'une meilleure compétitivité, parce qu'il a une meilleure productivité. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder, c'est toujours avec des salaires qui évoluent plus vite, et pas moins vite. D'accord ? Alors, je rappelle que l'Allemagne a presque été dans cette situation dans les années 60. C'est-à-dire que c'est effectivement le modèle que tout le monde veut. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez avoir des exportations, vous pouvez être en excédent extérieur, mais votre demande intérieure va plus vite que dans les autres pays, et pas moins vite. D'accord ? Donc, voilà, je voulais dire ça, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, les gains de productivité de l'Allemagne sont moins forts que ceux de la France. Alors, après on peut discuter quelles en sont les raisons, etc. Mais vous regardez ça sur très longue période, c'est pas un problème d'aujourd'hui parce que l'emploi, machin. Non, vous regardez sur très longue période, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est-à-dire que malheureusement, en termes de gains de productivité, je pense que si on prend tous les pays européens, même bon, les États-Unis, bon, mettons, mais même, bon, ça serait tout un sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En gros, à mon avis, le problème des pays développés, c'est ça, c'est que nos gains de productivité, ça s'appelle en général l'épuisement d'un modèle de croissance. Bon. Mais comme on ne veut pas savoir ça, on veut absolument qu'il y ait des pays qui soient des modèles, et donc on confond la productivité et la compétitivité, et on nous donne pour modèle des pays qui en réalité arrivent à avoir une meilleure compétitivité et de meilleures exportations au prix d'une destruction de leur demande intérieure. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas? Parce que si vous voulez, quand l'Allemagne a raison, encore une fois, on ne peut pas, comme nous le faisons tous, vivre avec des déficits publics et extérieurs. Donc je ne dis pas que l'Allemagne n'a pas raison. Je dis que l'Allemagne est le premier pays à avoir compris qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens et qu'il faut effectivement faire ce qu'il faut pour retourner à l'équilibre. Et quoi de mieux que de dire d'accord, il faut serrer la ceinture, mais autant avoir gardé de la production en exportant. Encore faut-il que les autres ne fassent pas la même chose. Bon. Alors, eux l'ont compris les premiers. Ben, tant mieux pour eux, je veux dire. Ben, ils l'ont compris les premiers. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous maintenant, si nous considérons que c'est un modèle et que nous allons faire la même chose et que nous allons obtenir les mêmes résultats, ces résultats qui ne sont pas fabuleux, mais qui sont déjà mieux que rien, puisqu'ils arrivent quand même à maintenir une production qui n'est pas trop affaiblie, malgré une demande intérieure qui ne bouge plus du tout. Mais nous, si nous faisons ça, eh bien, nous n'aurons pas de pays à exporter. Si nous faisons tous ça, il n'y aura plus d'exportation possible. Et donc, c'est la production de l'ensemble de l'Europe, et d'ailleurs des États-Unis s'ils font la même chose aussi, qui va s'en trouver affaiblie. Voilà. Donc, alors, il se trouve que la TVA sociale, tout ça, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, la TVA sociale, on nous dit qu'il faudrait imiter la TVA sociale. C'est un sujet compliqué, parce qu'en plus, nous, on a un taux de TVA qui est déjà très élevé. Donc. Mais à supposer, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la TVA sociale? TVA sociale, ce que ça fait, c'est qu'en fait, c'est une sorte de dévaluation, hein, la TVA sociale. Alors, c'est bien de trouver un truc qui fait de la dévaluation quand on est dans la zone euro. Hein, c'est très intelligent. Enfin, on ne peut pas reprocher aux Allemands d'avoir trouvé des trucs malins. Hein. Simplement une dévaluation, effectivement, et s'il y en a un qui le fait, faut que les autres apprécient. Hein, donc, bon. En tout cas, ce qu'a fait la TVA sociale, c'est qu'effectivement, ça entraîne une hausse des prix d'importation, et comme les salaires sont bloqués, hein, eh bien, la perte de pouvoir d'achat liée à cette hausse des prix d'importation ne peut pas être compensée par des hausses de salaire. Conclusion, ça approfondit la chute de la demande intérieure, en même temps que ça améliore la compétitivité. Donc c'est très bien, pour l'Allemagne c'est parfait, mais si nous le faisons, eh bien il n'y aura plus de gains de compétitivité, et donc il n'y aura plus d'effet de la TVA sociale. Ceci étant, il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, ça nous fait un handicap de compétitivité. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe et dire oui, il faut faire comme l'Allemagne, mais non, nous n'en aurons pas les mêmes avantages parce que pour moi, ce n'est pas un modèle. C'est encore une fois un pays qui fait ce qu'il faut faire, qui l'a fait le premier et qui, le faisant le premier, s'en tire pas trop mal. Voilà.
Merci Michel. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais qu'on entende Paul répondre sur cet argument. Est-ce que si tout le monde fait comme l'Allemagne en Europe, si tout le monde comprime ses salaires et comprime donc sa demande intérieure, qu'est-ce qui se passe?
Je voudrais d'abord faire un autre commentaire parce que Michel a dit... Le modèle à suivre, c'est un modèle qui produit en même temps un gain de productivité et des hausses de salaire, et pas l'un au détriment de l'autre. Moi, je connais qu'un seul pays au monde qui arrive à faire ça, et donc c'est bien ça le modèle à suivre, c'est la Chine. Hein, c'est la Chine qui a une hausse de salaire de à peu près 20% par an. Une croissance de productivité qui est à peu près dans le même niveau. Est-ce que c'est là le modèle à suivre? Je ne sais pas. Encore moi aussi, je ne pose que la question. Hein. Est-ce qu'il faut suivre le modèle allemand, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Michel. Oui, effectivement, si tout le monde contient ses hausses de salaire sans pour autant augmenter la croissance de productivité, on finit par avoir un appauvrissement mondial. Sauf que, encore une fois, j'ai déjà cité la Chine. Il est quand même vrai que la Chine est devenue une force mondiale très, très importante. Et là aussi, il y a un potentiel de demande. Et c'est surtout l'Allemagne qui l'a exploité. Et pas seulement, je pense, avec des restrictions d'hoste salaire, mais aussi en s'orientant vers des produits qui sont en forte demande en Asie et donc aussi en Chine, surtout les biens d'investissement, tandis que la France est plutôt orientée vers d'autres marchés et donc ne profite pas autant de la demande, de l'importation des pays asiatiques et marchands. Donc voilà, c'est toujours très compliqué.
Michel ?
Désolée, parce que ça risque de vous retarder la parole. Mais je pense qu'effectivement, la Chine... Enfin, il faut bien distinguer le problème de pays qui sont en rattrapage et ce que les économistes appellent ceux qui sont sur la frontière technologique. C'est-à-dire que nous avons été, à la fin de après la guerre, dans cette situation de rattrapage. C'est une situation, je dirais pas facile, c'est une situation où là, pour le coup, il y a un modèle. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, les modèles. Quand il y en a vraiment, en général, ça marche bien. On les imite et ça marche. Bon, la Chine, elle sait où il faut aller. Hein. Il faut imiter, il faut rattraper en niveau technologique et le font magnifiquement bien. Et effectivement, ça se passe très bien. Donc, on ne va pas pouvoir prendre la Chine comme exemple, puisque de toute façon, on est devant elle. Pour le moment, enfin, on est devant elle non plus, non pas en fonction de production, mais disons, ils ont un rattrapage à faire de l'ensemble de leur population. Bon, donc tant mieux pour eux, ils sont sur cette phase de croissance très forte, disons, je dirais pas facile, mais disons au moins où on a un modèle. Voilà. Nous sommes dans la situation où il faut que nous obtenions ça, en tout cas si on veut trouver un modèle, c'est ça. Et si on veut trouver effectivement la solution à nos problèmes, tous, c'est bien dans une situation dans laquelle les gains de productivité vont de nouveau augmenter un peu plus vite. Surtout si nous voulons consommer davantage, parce que si on ne voulait pas consommer, on pourrait effectivement rester plein. Le problème, c'est qu'on veut bien que les Allemands, même eux, finissent par s'enlacer de cette consommation plate. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'est plus que la consommation, le problème, c'est aussi le chômage. C'est-à-dire qu'il y a un problème double, qui est un problème de croissance et de contenu en emploi de cette croissance. Dernier petit point sur aussi les exportations vers la Chine. Alors, c'est vrai que l'Allemagne se développe beaucoup vers la Chine, et nous d'ailleurs on l'a bien vu, on essaie de limiter tout ça, même si c'est à mon avis, et c'est là que c'est intéressant, je pense qu'on a une stratégie un peu différente, nous avec des grands contrats, l'Allemagne davantage avec des petites des moyennes entreprises, et que c'est certainement un créneau plus durable. Bon. Mais, donc je ne dis pas que l'Allemagne n'a pas, on a chacun nos spécificités, hein, donc, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir transformer 80% de nos exportations qui sont vers des pays développés, en particulier vers l'Europe, hein, en des exportations vers la Chine. Surtout qu'il faut bien voir que la Chine est en train, elle, de doper sa demande intérieure et de doper sa capacité à satisfaire sa demande par une production intérieure. Bon, elle ne va pas l'exporter. Bon, donc, tu vois, on ne peut pas quand même compter sur la Chine pour être la machine à exporter. Elle a besoin de garder ses biens et elle compte bien augmenter justement ses salaires pour que les gens puissent acheter sa production. Bon, donc, je pense de toute façon, bien sûr, il faut essayer d'exporter vers la Chine, mais n'exagérons pas. C'est pas parce qu'on ne va pas pouvoir comme ça brutalement dire il n'y a plus d'exportation en Europe, hop, on va tous se retourner vers la Chine. Malheureusement.
Avant de donner la parole à Sal, juste une dernière précision à Michel Le Bonneuil. Tu as dit le marché du travail en France, enfin partout ailleurs on l'a complètement libéralisé. En France, on ne l'a pas fait, et en même temps on a l'impression en France qu'on a une montée en puissance du travail précaire, qu'on a des conditions de travail qui sont aussi de plus en plus compliquées. Alors est-ce que c'est qu'on est chochotte ou est-ce que c'est qu'il y a un problème ailleurs?
C'est pas 0 ou 1, on l'a fait un peu différemment, c'est-à-dire que, par exemple, les services à la personne, on sent un cas très, très, très emblématique, c'est-à-dire que, du moins ce qu'on en a compris, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va solvabiliser, au lieu de payer les gens à ne rien faire à 50%, on va réduire de moitié le prix des services qu'ils fabriquent, ce qui fait que ça va nous coûter la même chose, mais ça sera quand même mieux parce qu'on aura les services et l'emploi. Bon. Donc on a essayé de trouver comme ça des subterfuges plutôt que soit laisser les gens payer à ne rien faire, hein. Mais dans tous les cas, on est en train de chercher comment faire en fait pour mettre au travail, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, pour faire en sorte que des gens pour lesquels on n'a pas des emplois de qualité qui leur permettent de vivre, comment fait-on pour gérer ça au mieux, hein. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale. S'il y en a, voilà, la solution idéale, ça serait créer des gains de productivité dans des activités créatrices d'emplois. Et donc, moi je répète ça, et c'est là-dessus que j'essaie de proposer des solutions, parce que je pense que tout le reste, d'accord, c'est plus simple, parce que c'est plus facile de dire qu'il faut flexibiliser, il faut faire des politiques monétaires, des politiques budgétaires, etc. Mais on voit bien qu'on est au bout du rouleau. Tout ça, on l'a essayé, et ça ne marche pas assez.
Merci. La parole à la salle maintenant. Micro, on a là.
Donc là, puis là ensuite. Monsieur, et puis madame.
Oui, bonjour. Vous faites tout l'argument sur la capacité exportatrice de l'Allemagne, sur la maîtrise des coûts, et notamment la maîtrise des coûts salariaux. Dans une conférence tout à l'heure, on nous disait que les coûts salariaux en France et en Allemagne étaient comparables. Donc d'où vient cette compétitivité. Moi, j'avais plutôt en tête que la compétitivité allemande était une compétitivité hors coût. Et une des preuves, c'est que les Allemands ne craignent absolument pas la hausse de l'euro, là où les Français la craignent. Donc la France a plutôt une spécialisation plutôt sur une compétitivité prix, auquel cas on est très sensible aux effets prix, et l'Allemagne a l'air de s'en affranchir largement. Donc je suis assez étonné de cet élément-là.
La compétitivité, il faudrait montrer la compétitivité coût dont vous parlez, parce que ce qu'on vous a montré tous les deux, d'ailleurs, c'est les chiffres de l'OCDE, hein, donc la compétitivité coût, la compétitivité prix et surtout la compétitivité coût sont effectivement très, très différentes et liées à des écarts de salaire, d'évolution.
Non, ça ne marche pas.
Alors, bon, ça serait qu'on, ici pas le lieu d'en parler. Il y a des problèmes d'évolution et de niveau. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que dans l'industrie, les Allemands partaient d'un niveau qui était, si vous voulez, chez eux, on est beaucoup payé dans l'industrie. Bon, après, on n'a pas la même structure industrie-service, donc ça nécessite... Moi, comme je ne dis pas que le problème est réglé, il est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est les grandes lignes. Parce que si vous voulez, encore une fois, le juge de paix, c'est quand même le PIB. Juste paix, c'est quand même le PIB. Un pays qui vraiment est capable, comme ça, de vendre des produits, etc., bon, théoriquement, il a un PIB plus élevé quelque part depuis 40 ans, 50 ans. Depuis 1960, il n'a jamais été supérieur. Donc, moi, je suis très étonnée. Je l'ai toujours été. Je l'étais déjà il y a 20 ans ou 30 ans. Je le suis toujours. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis très admirative de leur capacité à ne pas dépenser. Je suis très admirative parce que se contenter de ce qu'on a, c'est une vraie qualité. Mais ce n'est pas la même. Parce que nous, celle-là, ne nous attire pas trop, même s'il faudra quand même y passer.
Monsieur, mais ce n'est pas ma question, c'est-à-dire que les écarts de salaire entre la France et l'Allemagne sont très faibles. Donc d'où vient la compétitivité coût dont vous parlez? S'il n'y a bien pas des salaires, d'où est-ce qu'elle vient?
Et si, il y a bien des salaires, regardez l'écart de salaire. Vous avez vu l'écart de salaire?
Sur vos graphiques, oui, mais moi...
C'est les graphiques de l'OCDE. On a les mêmes. Alors, vous pouvez critiquer.
Non, mais je ne critique pas, je prends les chiffres de...
Il faudrait... Donnez-nous les chiffres, on va vous le dire.
Les chiffres de la conférence de tout à l'heure, hein, juste avant vous.
Bah oui, mais regardez, c'est les chiffres de l'OCDE.
D'accord, bon, je sais pas, c'était l'OFCE, c'était...
Je suis discutée dans le train avec les gens de l'OFCE, ils sont absolument d'accord. Et d'ailleurs, c'était dommage qu'ils ne soient pas à cette conférence, parce que bon, je n'ai pas pensé à les inviter. Non, ils sont absolument... Non, mais c'est, encore une fois, il ne faut pas rester avec des choses sur le cœur, parce que les choses... Regardez, en 20 minutes...
Alors pourquoi l'Allemagne n'est pas vent debout contre un euro fort? Elle est plutôt...
Parce que je pense que l'Allemagne croit qu'elle est forte. Non, mais franchement, je vous le dis, parce que c'est comme ça, parce que si vous voulez, elle a toujours des signes extérieurs de force. Elle a toujours des signes extérieurs de force parce qu'effectivement, elle a des exportations et donc une pression. Mais c'est vrai qu'elle a de bons produits, mais si vous voulez, nous aussi, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que, et ce que je disais tout à l'heure est vrai, j'étais la première, quand j'étais au plan, à dire qu'il manquait des moyennes entreprises en France. Bon, on n'a pas les mêmes choses. Nous, on fait des très beaux des trains, le nucléaire, on a des grosses choses comme ça. Bon, ça, si vous voulez, le malheur, c'est que ça résiste mal au désir de la Chine. Parce que de toute façon, la Chine, elle finit par prendre tous les pays, elle fait de la concurrence sur ces choses-là qui sont des infrastructures, hein, et ça, elle les veut. Et d'ailleurs, c'est facile parce que c'est le TGV, la centrale nucléaire, le machin, donc il suffit d'y mettre le paquet et hop, ils se mettent ça à niveau. D'accord ? Tandis qu'une entreprise allemande qui fait de la mécanique, voyez, par exemple, l'autre jour, je parlais avec une entreprise qui fait du volet roulant. Du volet roulant mondial, je veux dire, vous voyez, les Chinois, ils ne vont pas dire « Ah, mais il faut que j'aille piquer le volet roulant, et puis le tapis brosse, et puis le machin, etc. » Donc, quand vous avez une multitude comme ça de produits de qualité que vous arrivez à fourguer au niveau mondial, c'est une bonne spécialisation, je ne dis pas le contraire. Ce que je constate, c'est qu'au bilan, c'est ça qui compte, au bilan, moi je regarde le bilan, c'est le PIB.
Voilà sur la compétitivité hors coût.
Voilà, il y a des études faites à l'OCDE qui montrent effectivement que la compétitivité coût n'explique pas tout. Hein. C'est vrai que la compétitivité hors coût est assez importante aussi au niveau de l'exportation allemande par rapport à la France. Donc, il y a un peu de vérité dans les deux. Hein.
Madame ?
Oui, merci, bonsoir. Les premiers partenaires économiques de l'Allemagne sont les pays de la zone euro. Et or, ces pays ont vu, comme vous m'avez montré, des revenus qui ont augmenté. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, en fait, l'Allemagne a une stratégie non coopérative, une stratégie de partage clandestin, et au lieu de dire l'Allemagne est un pays formidable, on pourrait dire l'Allemagne ne joue pas le jeu de l'Europe. Et est-ce qu'on montre ça, mais personne ne le remet en question? Alors, après... Voilà.
Alors c'est un point qu'on a déjà abordé, mais on peut poursuivre la discussion là-dessus. Paul, vous avez dit tout à l'heure, l'Allemagne est allée trop loin. Hein,
Bah oui, dans la mesure où elle est contente, elle exporte principalement sur des pays européens, parce qu'il faut voir que les deux tiers des exportations sont vers les pays européens. Ce sont des pays dont les coûts, on l'a vu, les revenus augmentent. C'est-à-dire que nous, on a une demande intérieure. Qui dit augmente de demande intérieure, on achète plus de produits allemands. Et leur croissance, ils la font à notre dépens.
Paul, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que j'ai essayé d'expliquer, qu'il y a une certaine dynamique en Allemagne qui veut effectivement que ça se produise. Mais je pense que ce n'est pas forcément délibéré. Je pense que c'est une surréaction. À la perte de compétitivité que l'Allemagne a subie pendant la période juste après la réunification. Et c'est ça ce que je voulais dire, qu'ils ont réagi, ils ont ajusté, mais ils sont allés trop loin. C'est la dynamique qui a produit ça. En plus, comme j'ai essayé d'expliquer aussi, c'est la relation entre les partenaires sociaux qui jouent aussi beaucoup et qui est vraiment dans les gènes, si vous voulez, des Allemands et qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer peut-être de coup. Mais je pense que ce n'est pas forcément délibéré.
En fait, je me suis mal. Je ne pensais pas que c'était délibéré, hein, c'est simplement un constat. C'est-à-dire qu'un constat, c'est qu'au niveau européen, on n'a pas des stratégies communes. C'est-à-dire que l'Europe, mine de rien, on est plutôt en régression en tant que modèle européen que le modèle qu'on nous disait il y a 10 ans. Si on s'en sort, c'est pas la France, l'Allemagne, c'est l'Europe. Voilà. Et là, on est en train de perdre nos illusions. Deuxième, juste...
Il y a plein d'autres questions.
Non, mais
Non, excusez-moi, mais je vois plein de mains qui se lèvent. Michel voulait dire un mot là-dessus, puis on prend une autre question. Excusez-moi.
Non, mais c'était très rapide sur l'Allemagne est connue.
Non, mais je vais aller très vite, justement, pour ne pas rester sur ce sujet. Mais si vous voulez, ce n'est pas une question d'accuser qui que ce soit. Je pense que ce qui se passe, c'est que nous avons tous des problèmes au niveau européen de déficit extérieur et surtout public, qu'il faut les résoudre. L'Allemagne a été le premier à les résoudre. On ne va pas les accuser d'avoir fait ce qu'il faut faire. Simplement, il faut simplement voir que si on fait tout ça, ça ne fera pas ce que ça fait pour l'Allemagne. C'est tout ce que j'essayais de dire. Hein, et que c'est ça que je n'appelle pas un modèle. Je dis attention, attention, c'est tout.
Oui, moi j'aurais complété, il y a eu une polémique sur le sujet, je crois que c'est Mme Lagarde qui l'avait lancé, et je crois qu'on a oublié quelque chose dans le débat, c'est que l'Allemagne se sert de ses pays voisins, qui font aussi partie de la zone euro, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, etc., où elle sous-traite énormément, elle fait produire à bas coût, elle importe ensuite ses demi-produits, elle les transforme, on les assemble chez elle, et elle les revend dans la zone euro, ce qui permet je réponds à monsieur, de ne pas être vent debout contre la hausse de l'euro. Elle n'est pas gênée du tout par ça, puisque les deux tiers des exportations allemandes se font dans la zone euro. Donc elle a bien compris ce qu'il fallait, comment tirer parti de la zone euro, en fait.
Alors, premier élément de réponse, il y a une étude très contre-intuitive qui a été faite il y a un an par une chercheuse de l'Université de Munich, qui montre l'inverse, qui montre justement que ce que l'Allemagne fait faire en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, dans tout son interland de l'Est, c'est son travail qui est fait par de la main-d'œuvre très qualifiée, parce que cette main-d'œuvre très qualifiée, il n'y en a plus assez en Allemagne. Et du coup, ça fait une pression à la baisse sur les salaires des ingénieurs en Allemagne. Je vous conseille m'enverrez un mail, je vous enverrai la référence de cette étude, elle est assez étonnante, et elle a été faite à partir de données d'entreprise, pas à partir de données macro, à partir de données d'une centaine de grandes entreprises allemandes, où la chercheuse a été chercher toutes ces informations, et voilà, c'est assez contre-intuitif. Sur la stratégie de l'Interland, pays de l'Est, Allemagne, est-ce que l'un de vous veut ajouter quelque chose? Apparemment, non.
Tout de même. Non, mais ce que tu dis est vrai en France. C'est-à-dire que quand vous interrogez les entreprises de luxe en France, ils vous disent que ce qu'ils font faire, parce que nous, on n'a peut-être pas aussi près, enfin, c'est pas si loin que ça quand même pour nous non plus, il ne faut pas exagérer, puis on a les pays du Maghreb. Donc, si vous voulez, on ne va pas dire que l'Allemagne est en position très spécifique par rapport à nous, et nous avons le même biais. C'est-à-dire que quand vous interrogez toutes les industries du luxe, ce qu'on, par exemple, même dans la couture, ce que l'on fait quand vous interrogez Chanel, etc., ce qu'ils font faire en Chine, c'est le plus délicat. Parce que vous allez avoir une main-d'œuvre, c'est même plus une question de coût, c'est que la main-d'œuvre, elle est plus travailleuse et plus minutieuse.
Oui. Question en haut là-bas. Après ça, on revient par là-bas.
Oui, donc j'avais une question justement sur les chiffres. Moi, il m'a semblé dans les chiffres que j'ai aperçus. Je l'ai aperçu assez rapidement, mais il m'a semblé qu'il n'y avait rien sur le niveau des salaires, mais il portait sur l'évolution des salaires. Et que donc, nous n'avions aucune information justement sur les salaires allemands par rapport aux salaires français, par rapport à la première question qui a été posée. Et donc, est-ce que c'est un problème de différentiel de compétitivité-coût ou un problème d'évolution de la compétitivité-coût ?
Paul, peut-être d'abord, ensuite
Michel. Ça c'est vrai, les chiffres que j'ai montrés, ça reflète l'évolution, hein, par le niveau des coûts et la compétitivité en Allemagne par rapport à la France. Effectivement, c'était des indices. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que le PIB par tête en Allemagne est légèrement plus élevé qu'en France. C'est déjà un indicateur que, effectivement, probablement, le coût de salaire en Allemagne sont comparables à ceux de la France, et peut-être même un peu plus élevés, en termes absolus, si vous voulez. Mais c'est l'évolution qui est très différente. Les niveaux, certains, sans doute pas.
Oui, si vous voulez, je peux vous envoyer, je ne les ai pas mis, mais je les avais. En réalité, ce que l'on voit, c'est qu'ils étaient en niveau plus élevé en Allemagne, un peu plus élevé en Allemagne qu'en France, sur l'industrie manufacturière, parce que c'est là-dessus que les niveaux sont faits. Donc, encore une fois, l'industrie en Allemagne, c'est très différent de la France. Vous savez que les ouvriers sont très bien payés en Allemagne. Bon. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a eu aujourd'hui une convergence. C'est-à-dire, c'est l'intuition que vous avez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salaires sont équivalents dans l'industrie. Voilà. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, il y a 80% du PIB qui n'est pas dans l'industrie. Et là, si vous voulez, il n'y a aucune raison pour que les salaires en Allemagne aient été plus élevés. Je dirais même plutôt qu'ils sont moins, parce que c'est moins valorisé. C'est des questions de valorisation. Et voilà. Et en gros, ben, ça fait la même chose. Ça fait que les PIB ne sont pas les mêmes.
On peut aussi ajouter que autant des comparaisons de niveau salarial sont à peu près faisables en entreprise... Oui. Une entreprise qui a les mêmes usines en Allemagne et en France, moi j'en ai discuté avec des chefs d'entreprise comme par exemple Saint-Gobain, ils peuvent faire des comparaisons très précises. Autant, donc au niveau micro, on peut faire ces comparaisons. Passer du micro au macro est là extrêmement compliqué. Donc avoir des niveaux de comparaison de coût salarial global à l'échelle d'un pays ou même de l'industrie d'un pays dans son ensemble est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Autre question, là-haut, monsieur. Ensuite on revient par là.
Oui, merci de vos explications qui sont très claires. Alors, si j'ai bien compris, il y a un modèle allemand, mais ce n'est pas forcément un modèle que la France doit suivre, si j'ai bien compris. La différence entre l'Allemagne et la France actuellement joue sur les exportations. Je crois que la France aura du mal à rivaliser avec l'Allemagne s'agissant de produits manufacturés, comme vous avez dit. Moi, j'ai une question à vous poser. Dans quel secteur la France pourrait être compétitive au niveau international, au niveau des exportations? Est-ce qu'il y a des secteurs que l'on pourrait cibler? Merci.
Michel?
Écoutez, quand l'Allemagne avait beaucoup de demandes, on a exporté énormément de produits manufacturés. C'est-à-dire que ce mythe que l'Allemagne serait exportateur de produits manufacturés et pas la France, certes, on a vu qu'il y a un petit écart et que cet écart s'est accru puisqu'il y a eu une demande extérieure qui a été dopée par la compétitivité. Mais la France n'a pas une industrie nulle du tout, du tout. On est un peu plus spécialisé dans les services et on n'a pas le même genre d'industrie puisqu'on a des industries qui sont plus des industries, encore une fois, d'infrastructures et pas autant de mécanique et de choses comme ça. Et encore une fois, on peut dire qu'on pourrait penser que c'est meilleur, encore que ce ne soit pas encore très évident sur globalement. Voyez, donc on peut toujours isoler des faits comme ça. Le problème, ce qui est important, c'est de regarder au bilan, au niveau macroéconomique, les performances. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la France est totalement capable et que dès que sa demande intérieure est moins forte, elle exporte. Regardez le graphique de balance des paiements sur longue période. C'est encore une fois, c'est ce que j'avais dit à Jean-Claude Trichet après l'unification. Je lui dis, dans 6 mois, vous allez avoir des déficits extérieurs allemands. Personne n'y croyait. Et on me disait, mais non, les Français, ils sont incapables d'exporter. Ben, attendez, du jour au lendemain, les Français ont exporté, les Allemands ont importé. Et on a eu des excédents. Pendant 10 ans, on a eu des excédents vis-à-vis de l'Allemagne. Ils ont eu des déficits par rapport à nous, sur les manufacturés. Donc, tout ça, c'est des idées reçues. Alors, à la marge, encore une fois, il y a des différences à la marge, mais c'est vraiment à la marge. Et donc, on ne peut pas là-dessus, si vous voulez, bâtir des supériorités qu'il nous faudrait imiter. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un modèle à imiter, attention, je dis simplement que ce n'est pas le modèle qu'on croit. Bien sûr que si, qu'il va falloir l'imiter. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il va falloir réduire nos déficits. Simplement, ne croyons pas qu'on va avoir des exportations. C'est tout ce que je dis, malheureusement, si. Mais ce n'est pas le modèle qu'on croit. Voilà, un modèle, théoriquement, quand vous limitez, vous obtenez la même chose. Eh bien là, non. Quand on va limiter, on va être très déçu. Donc, ce n'est pas un modèle.
On va redescendre un peu de ce micro-là, puis on remontera après.
Si, moi, j'aurais quelques questions d'ordre statistique.
Pas beaucoup de questions, une ou deux questions, pas plus.
Oui, j'aurais des questions d'ordre statistique. Vous avez parlé coûts salariaux, mais du coup, vous êtes passé ensuite du coût salarial au salaire, alors qu'il me semble qu'il peut y avoir d'assez gros écarts compte tenu des écarts éventuels de charges sociales, liés notamment aux questions, évidemment, de poids du chômage. Et un peu du même style, vous avez beaucoup parlé de productivité. Quand on parle de gain de productivité meilleur en France, par exemple, s'agit-il d'une productivité horaire, d'une productivité par travailleur ou d'une productivité par rapport à la population active, ce qui donne des résultats très différents, me semble-t-il.
Paul ?
Oui, la réponse est très simple. Dans mon cas, les charges sociales sont incluses dans le coût de salaire. Et la productivité, c'est par travailleur. Effectivement, il y a un facteur temps de travail qui entre là-dedans.
Oui, bon, c'est un sujet, il faudrait beaucoup de temps pour le traiter, parce qu'on sait bien quand on a fait les 35 heures, etc. Bon. Donc, chaque pays a ses spécificités, mais si vous voulez, en gros, quand vous regardez, si vous voulez comprendre pourquoi c'est pas la même chose par travailleur, vous avez intérêt à regarder par heure de travail, etc., ça permet de comprendre. Mais en fait, la productivité par travailleur, c'est-à-dire celle qu'on donne habituellement, ben, c'est quand même comme le PIB, si vous voulez, il faut quand même quelque part regarder le juge de paix, quoi. Quand vous parlez en termes de productivité, la productivité par travailleur, c'est important, parce qu'encore une fois, c'est la capacité de chaque personne qui est au travail, de créer de la richesse. Donc si, après vous pouvez regarder par heure de travail, parce qu'effectivement si dans les différents pays on n'a pas le même nombre d'heures de travail, ben, ça ne vous fait pas la même productivité par travailleur. Bon. Mais si vous voulez, en gros, quand vous regardez la productivité par travailleur, vous avez quand même une bonne image de ce qui se passe.
Oui, mais si ce n'est que l'une des spécificités de la France, c'est d'employer que les plus productifs. Hein, et on voyait très bien sur les graphiques de Paul la capacité de l'Allemagne à mobiliser sa population active. Hein. Elle a beaucoup accru le taux d'emploi de ses 15-64 ans, ce que la France n'a absolument pas fait. Donc la France continue d'employer les plus productifs, et donc elle fait de la productivité qui est une productivité au moins en partie apparente, puisqu'elle le fait en mettant sur la touche tous les gens dès qu'ils sont un petit peu moins productifs. Et c'est vrai en particulier des jeunes qui ne sont pas encore formés et des seniors.
Or, tout ça renvoie vraiment beaucoup, justement, à la capacité de la France, ou plutôt à l'incapacité de la France à accepter, et c'est un vrai sujet, les petits boulots. Parce que les petits boulots, c'est les jeunes et les seniors. Hein. Donc, effectivement, on a des taux d'emploi de ces gens-là qui sont très faibles. Bon, donc, et on a fait les 35 heures, c'est-à-dire on a des caractéristiques très particulières quand on fait les 35 heures, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas. Donc effectivement, ceux qui travaillent sont très productifs. Bon, voilà, donc ça, on comprend très bien, c'est les 35 heures, c'est très bien informé, on a un écart très important, effectivement, en productivité horaire, on est les champions du monde, mais quand on regarde en production par travailleur, Bon, et après, je pense que notre grosse spécificité, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas employé les jeunes et les seniors, parce que, quand vous regardez ce que sont ces emplois des jeunes et des seniors dans les autres pays où ils ont créé plus que nous de ces emplois, c'est des petits boulots de moins de 15 heures par semaine. Donc nous, on estime que ce n'est pas du travail. Alors on peut en discuter. Alors si ce n'est pas du travail, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Parce que vous pouvez toujours dire, si le BIT dit que c'est un travail, donc c'est un travail, d'accord? Simplement, les gens ne peuvent pas vivre avec. Donc après, il faut faire quelque chose.
Question là-bas, madame.
Commentaire sur la consommation allemande. Elle n'a pas du tout la même structure que notre consommation française. Donc il est difficile de comparer. La consommation est mature. Les Allemands ne sont pas tournés vers la consommation. L'influence des Verts, il y a aussi un petit peu pour quelque chose. Donc une fois qu'ils ont le trou, bon, et ben après on renouvelle pour un cabinet.
Michel.
C'est un vieux sujet. Si c'était nouveau, on pourrait dire, bon, c'est un vieux sujet, je vais vous dire. Déjà à l'époque, quand on me disait « mais c'est pas vrai, les Allemands sont bien plus riches que nous », alors qu'on avait le même niveau de PIB par tête, « c'est pas vrai, ils sont pas plus riches que nous, mais si vous n'êtes jamais allé en Allemagne, ils sont beaucoup plus riches que nous, ça se voit ». Donc j'allais en Allemagne et j'ai regardé, j'ai regardé très finement la structure de consommation des Allemands. Il suffit d'ailleurs de se promener dans une ville allemande, surtout, c'était encore plus vrai à l'époque, hein, ça s'uniformise comme on le sait partout, hein, mais l'occurrence des boutiques de fourrures, de voitures, de fourchettes et de cuillères, de tapis. Et si vous voulez, pour une femme qui se promène dans ces villes allemandes, on s'ennuie à mort, parce que si vous voulez, il n'y a rien de ce qui nous intéresse. Bon, ce sont des produits, non pas de consommation, comme vous dites, c'est des produits durables. C'est-à-dire que chez eux, la consommation, elle est durable et ostentatoire. D'ailleurs, c'est chez eux qu'on a inventé le hard discount, parce que si vous voulez, là aussi, il y a c'est très important pour une ménagère. La ménagère, elle économise. Bon, elle ne va pas dépenser son argent ni pour s'habiller, ni pour manger. Voilà, on dépense son argent pour des choses qui durent. Et si vous voulez, c'est énorme, la différence de structure de consommation des deux pays est sidérante, sidérante. Et effectivement, là encore c'est très amusant parce que au total, c'est la même moyenne, simplement c'est très différent. Et c'est vrai qu'ils ont l'air plus riches. Et c'est des choses qu'il faudrait regarder davantage, parce qu'encore une fois, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on croit.
Autre question ? Monsieur là-bas, peut-être.
Vous avez évoqué la Chine, mais est-ce que la recherche d'un modèle en regardant des courbes tournées vers le passé est quelque chose qui est pertinent? Ou est-ce que l'émergence de tous les pays, les BRIC et les futurs BRIC qui peuvent s'appeler Afrique du Sud, Chili et après Kenya, Nigeria, etc. Est-ce que l'émergence de tous ces pays ne nous oblige pas à refonder complètement la vision d'un modèle, sinon effectivement à accepter le creusement de déficits abyssaux qui changeront en tout cas les problèmes de souveraineté français d'abord et européens ensuite?
Michel?
C'est bien si c'est vous qui le dites, parce que c'est quelque chose que j'essaie de dire depuis 10 ans, mais si vous voulez, la réalité, c'est que on n'est plus dans les conditions où l'ouverture des frontières est bénéfique pour tous les pays. Bon. C'est-à-dire Ricardo qui a eu cette idée géniale, qui disait, vous êtes le pays qui est nul partout, c'est pas grave, vous ouvrez vos frontières avec celui qui est le meilleur partout, vous y gagnez tous. C'était un truc sidérant, enfin, c'est vrai. Et en plus, c'était compréhensible, sans équation. Donc, il donnait l'exemple de la secrétaire avec l'avocat. On se disait, mais il a raison, c'est énorme, parce que c'était une nouvelle extraordinaire. On n'est plus dans cette condition, dans cette situation. Vous vous rendez compte? On n'est plus dans cette situation. Pourquoi? Parce que, en gros, on sait faire la même chose que tous ces pays-là. Hein, ils savent faire plutôt la même chose que nous, à 30 fois moins cher, et donc pour 30 ans. Bon, donc soyons clairs. D'ailleurs, on ne va pas délocaliser, parce qu'il faudrait tout délocaliser. On est en train de s'ajuster. D'ailleurs, les Allemands donnent l'exemple. Voilà. On ajuste, eux ils montent, nous on descend. Voilà. Et si vous voulez, ma concierge me comprend. C'est-à-dire que si vous savez faire la même chose, vous êtes payé la même chose. Bon, alors ça, si vous voulez, évidemment, là on n'est pas nombreux, on peut le dire, on est entre gens qui réfléchissent, etc. Bon, on ne peut pas le dire. Parce que les gens vont dire, on ferme les frontières. Mais surtout pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est la question que je me pose depuis 10 ans. Donc j'ai essayé de trouver une solution à ça. Je pense qu'il y en a une, il y en a une seule. C'est que notre seule différence pour faire un avantage comparatif, il faut une différence. S'il n'y en a pas, son verre plus fini. Donc, la seule différence, c'est qu'on a accumulé depuis 150 ans. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs, la différence n'est plus sur les fonctions de production, n'est plus, marginalement, pas suffisamment pour en parler comme ça. Évidemment, on peut faire des volets roulants un peu mieux. Bon. Donc, le seul espoir de construire un avantage comparatif, c'est quelque chose qui permette à tous les pays de gagner à l'échange, c'est effectivement de trouver un avantage comparatif construit sur les consommateurs, ce qu'on appelle les fonctions d'utilité. Bon, eh bien, moi, j'exprime ça en paroles comme ça, hein, mais ça peut se mettre en modèle, si on le veut, évidemment. C'est que notre seul espoir de pouvoir arriver à ça, c'est de fabriquer avec les mêmes savoir-faire des produits qui sont adaptés à des gens, à des pays qui ont accumulé depuis longtemps, c'est-à-dire où les consommateurs sont nantis. C'est ça que j'appelle le quaternaire. Et donc, si vous voulez, vous avez totalement raison. Mais c'est des choses, si vous voulez, il faudrait que les gens se réveillent pour dire, on voudrait en savoir plus. Parce qu'en effet, on ne peut pas laisser comme ça les choses dériver sans les traiter, même si... Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de problème posé qu'il n'y ait pas de solution. Finalement, il faut les poser.
L'espoir économique, édition François Bourin, 2007. Monsieur, dernière question.
Alors, la question que je pose est la suivante, c'est que dans la notion de pays modèle, vous n'avez jamais évoqué les inégalités. Je parle pas de l'indicateur PIB qui renvoie à d'autres débats, mais simplement en restant sur vos arguments, je n'ai jamais entendu dire le partage des gains de productivité, la réduction des inégalités, je n'ai pas entendu non plus l'accroissement d'ailleurs au demeurant, mais la question des inégalités n'est jamais arrivée. Pour moi, enfin, est-ce que je peux défendre l'idée qu'un pays modèle, c'est un pays où les inégalités n'augmentent pas, par exemple, ce serait pas mal, l'inégalité de revenus, patrimoine.
Paul, le CDE a pas mal travaillé sur les dimensions d'inégalité. Est-ce que vous les avez croisées avec ces dimensions de modèle, d'efficacité, de croissance?
Oui, ben justement, je voudrais déjà réagir à une chose que Richard a dit. Le but de l'économie, c'est la productivité. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, l'inégalité est très important, facteur très important. Mais il y a plusieurs chemins possibles pour justement diminuer l'inégalité. Et je pense que la bonne piste, c'est surtout d'offrir un enseignement et une formation de capital humain qui produit une moindre inégalité entre les travailleurs. Ça c'est plutôt ça que la redistribution de la richesse, parce que ça porte des coûts qui diminue justement la productivité d'une économie et qui diminue le gâteau, si vous voulez, à redistribuer. C'est ça la position de l'OCDE, c'est bien connu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre la diminution de l'inégalité. En fait, c'est un des objectifs importants.
Oui, je pense que la seule façon de réduire les inégalités, c'est d'avoir des gains de productivité. Donc voilà, on a des inégalités parce qu'on n'a pas de gains de productivité. Et que quand vous avez en plus pas de gains de productivité et une croissance de l'emploi qui ne peut se faire qu'avec de façon massive des emplois de moins de 15 heures par semaine à moins du SMIC, ben, je vais vous dire que vous le tourniez comme vous voulez, il y a effectivement les pays qui ont moins d'inégalités, c'est ceux qui ont des déficits publics parce qu'ils payent les gens à ne rien faire. Qui donne le complément voilà. Donc, encore une fois, il n'y a qu'une solution à la fin des inégalités, c'est la croissance de la productivité dans une économie de plein emploi. Il n'y en a pas d'autre. Alors après, une fois qu'on a dit ça, pourquoi faut-il le faire? Mais en fait, c'est déjà pas mal de le dire.
Et pour reboucler, on pourrait dire aussi que l'une des conditions de la productivité, des gains de productivité, c'est améliorer le dialogue social. Et que là, c'est peut-être l'un des endroits où, en France, on a beaucoup à faire. Je voudrais terminer sur deux petits points. Quand on termine un débat, soit on peut le résumer de manière brillante, je ne sens absolument pas le talent de le faire. Je voudrais juste vous donner deux éléments de comparaison sur le match France-Allemagne qui n'ont pas encore été évoqués. Premièrement, la dette. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la dette publique. On sait bien que dans la crise financière que nous vivons, il y a la dette des agents privés, des entreprises, des ménages. Et donc, dette des ménages en France... En 10 ans, c'est passé de 500 à 1000 milliards d'euros, donc ça a doublé. En Allemagne, c'est passé de 1500 à 1500 milliards, donc ça a stagné. Petite interrogation là-dessus, addendum, les prix d'immobilier en France ont augmenté sur la période de 128%, quel gain de richesse, et ils ont baissé de 6% en Allemagne. Deuxième point de comparaison et de réflexion, c'est une histoire qui m'avait été rapportée dans les années 80, entre une discussion entre un patron français et un patron allemand. Le patron français dit « Cher ami, nous avons des usines dans chacun de nos deux pays, nous pouvons faire des comparaisons, et dans nos deux pays c'est pareil, il y a 15% de bons, 70% de moyens et 15% de mauvais. » L'allemand dit « Oui, je suis d'accord. » Et le français dit « Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez meilleur que nous, alors que, objectivement, si on regarde dans nos entreprises, eh bien, les 15% de bons, individuellement, ils sont meilleurs en France qu'en Allemagne. » Et l'Allemand lui a dit « Oui, cher ami, je suis assez d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez pensé aux 70% restants ? Merci, bonne soirée. »